qui les suivent dans les magazines et à la radio, à la télévision aussi.
Alors qu'est-ce qui a fait, aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, que pour les filles, le fait de cette longévité pour certaines et puis une carrière plus éphémère pour les autres? Est-ce que c'était un concours de circonstances ou est-ce que pour les filles c'était plus difficile parce que la condition de la femme n'était pas forcément d'être une artiste, hein, dans l'esprit de l'époque?
Ouais, oui, notamment si on lit la biographie d'Annie Philippe qui est sortie il y a quelque temps au Cherche Midi, on s'aperçoit que les producteurs derrière, parfois elle, c'était en plus, elle avait vraiment des producteurs dont certains appartenaient au milieu, elle l'a su ensuite. Et donc c'était un peu compliqué. Et souvent aussi, on prenait une fille qu'on trouvait jolie et on passait à une autre. Et puis après 68, il y a eu toute une période où on a voulu changer un peu de style, et c'était très difficile pour certaines de s'accrocher. Alors certaines ont continué, d'autres effectivement n'ont vécu que le temps d'un ou deux 40 ceintures, mais aujourd'hui on les redécouvre. C'est ça qui est étonnant, parce que les Anglo-Saxons sont vraiment fans de ça, les Japonais aussi, il y a plein de compilations, donc ça sort des... Au départ c'était vraiment des frontières francophones, et puis d'un seul coup on s'aperçoit que là il y a des gens dans le monde entier qui trouvent que finalement ces filles françaises, même si elles étaient influencées par les Anglo-Saxons, avaient un style à elles, et un charme français qu'on voit peut-être moins nous parce qu'on est dans le pays, mais que les autres apprécient ailleurs beaucoup.
Alors certaines effectivement écrivaient leurs textes, mais elles composaient également.
Oui, voilà, Françoise Hardy justement, qui était vraiment une précurseuse en la matière, et qui après a même monté, une fois qu'elle est sortie de chez Vogue, sa propre maison d'édition, son propre label. Et donc voilà, ça c'est aussi une révolution, parce que ça a préfiguré après, dans les années 70, les auteuses compositrices comme Véronique Sanson, qui a commencé à la fin des années 60, mais qui elle a vraiment été typique de l'après 70. Mais après, dans les années 80, il y a eu un retour. Je dirais que des groupes comme Niagara, ou que ce soit aussi Lio, ou Élie et Jacquenot, ont un peu repris les 60s avec une sensibilité plus moderne, enfin, de leur époque, mais qui est revenue. Puis aujourd'hui, il y a même les Parisiennes qui reviennent, un groupe des 60s. Donc il y a comme un mouvement, un éternel retour.
Alors, est-ce que vous avez eu des surprises, des interrogations lorsque vous avez travaillé sur ce livre, en redécouvrant ou peut-être en sortant quelques anecdotes un peu oubliées pour certaines de ces artistes?
Oui, effectivement, parce que il y a tout ce qui est l'histoire officielle, mais après on découvre des choses, alors des choses qu'on peut mettre dans le livre et d'autres pas, mais sans rentrer dans une anecdote particulière, on se rend compte quand même que les producteurs, notamment, sans citer le nom de producteur particulièrement, étaient quand même énormément derrière, et justement Françoise Hardy d'autant plus remarquable, c'est qu'elle a réussi à couper un peu les fils, la puppet on a string, mais que pour beaucoup d'autres artistes, même le choix du répertoire parfois était un peu imposé par le producteur, et il fallait un peu lutter parfois pour imposer les choses.
Et puis il y a eu aussi, alors il y a eu les mariages, je pense à Sylvie Johnny bien sûr, mais il y a eu aussi des idylles comme France Gall et Claude François.
Et
c'est vrai que pour France Gall, ça a été difficile de s'imposer, s'est imposé, mais face à Claude François, bon, ça a été la rupture entre deux. Mais il y avait une rivalité homme-femme de toute façon.